Voilà, si vous n'êtes pas trop assommé, on peut. On a encore un moment, je pense, trois quarts d'heure. J'ai un peu débordé l'heure impartie. Mais... Oui, je vous en prie.
Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour poser la question, mais la différence entre religion et secte ?
On essaiera d'aborder la prochaine fois, mais j'aurais tendance à dire que, alors ce serait une boutade, qu'une religion c'est une secte qui a réussi. Mais c'est une boutade et ça, à mon avis, ça ne rend pas la complexité du problème. Je crois qu'il y a effectivement, mais ça méritera, la semaine prochaine j'y reviendrai si vous voulez. Je crois qu'il y a, je l'ai abordé, l'affaire de des pressions de caractère moral, des formes d'endoctrinement, de suggestion physique et morale des individus à travers une religion, qui fait que la secte est effectivement une sorte de, je sais pas, pour employer le terme, d'étouffoir, ce que n'est pas nécessairement une religion, à mon avis. Mais je pense qu'il faudra revenir, à partir du rapport GES, sur les caractéristiques des sectes. En étant extrêmement prudent, je le suis personnellement, je ne suis pas croyant. Hein. Mais donc, la question des religions, je l'aborde par intérêt et de l'extérieur. Je ne suis pas évidemment favorable aux sectes, vous vous en doutez. Mais je pense que c'est très compliqué, la question des sectes. Et que la question de la religion, les frontières sont parfois extrêmement difficiles à établir. Et c'est le cas avec un certain nombre de sectes qui ont pignon sur eux, comme les témoins de Jéhovah, qui ont joué par ailleurs un rôle politique positif dans l'Allemagne nazie, et qui ont par ailleurs, effectivement, par rapport aux grandes institutions, tout à l'heure je l'avais noté mais je ne l'ai pas dit, une grande institution de la République en matière de médecine, c'est les vaccinations obligatoires. Ben, effectivement, une secte, comme les témoins de Jéhovah, refuse un certain nombre de choses, les transfusions, d'autres types de vaccinations, etc., etc. C'est une grande institution, les vaccinations, la médecine, c'est pour éviter les pandémies, les épidémies, etc. Donc je pense qu'il faut faire très attention à la caractérisation des sectes. Cela étant dit, bon, il y a eu des débats extrêmement vifs à l'Assemblée nationale. Alain Glary, qui est là et qui était député du Gard à l'époque, vous pourrez le rappeler, avec dans un certain nombre de groupes parlementaires, des gens qui étaient particulièrement intégristes sur la notion des sectes. Je pense qu'il faut être prudent là-dessus, et prudent aussi par rapport à la manière dont on conçoit les religions. Il y a un historien qui l'a bien traité, me semble-t-il, s'appelle Jean Delumeau. Je vois où à peu près où est le bouquin chez moi. J'essaierai de regarder ce qu'il en redit. Je ne voudrais pas vous dire de choses approximatives à cet égard.
Oui, moi, je n'arrive pas bien à voir les limites de l'expression publique des religions. Les limites de l'expression publique des religions. Je ne sais pas ce que c'est.
C'est-à-dire, allez-y, comment vous avez compris ce que j'ai dit,
parce que... L'expression publique des religions, alors je crois comprendre, mais certainement je me trompe. Excusez-moi.
Les limites de l'expression, cette dame n'arrive pas à comprendre les limites de l'expression publique des religions. Eh bien, une religion, ça dépend, d'abord, la foi, c'est quelque chose qui est privé. C'est votre liberté personnelle. Cela dit, la loi dispose qu'il y a une liberté religieuse, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de professer votre religion dans l'espace public, dans des limites qui sont déterminées par la loi. Par exemple, on ne cache pas les églises. Il y a des croix sur les églises. on peut accéder aux églises. Il peut y avoir des manifestations dans l'espace public qui sont des manifestations religieuses. J'ai pris un exemple la semaine dernière, je le redonne. Alors là, ce n'est pas les catholiques, c'est les protestants. C'est l'Assemblée annuelle du musée du désert. L'Assemblée annuelle du musée du désert se passe au Massou-Bayran à Mialet, qui est une propriété privée. Donc la religion s'exprime dans l'espace privé. Seulement pour y accéder, il faut prendre des routes qui sont des routes publiques et laïques. Elles ne sont pas protestantes. Et il y a une entente entre l'église protestante et la préfecture du Gard, de manière à faciliter les choses. Cela dit, c'est assez compliqué d'ailleurs, parce qu'il y a des milliers de voitures qui accèdent là-bas, ou de cars, etc. Il y a 15 000 personnes qui arrivent. Donc, l'espace public, c'est à l'intérieur de l'espace public qu'une religion, qui est un phénomène collectif, peut s'exprimer. Le pèlerinage à Lourdes, il s'exprime à la grotte de Massabielle, c'est évident, dans les églises, dans les nombreuses églises. Mais il envahit toute la ville. Le pèlerinage de Chartres, on part de Paris, on va jusqu'à Chartres. Lisez Péguy, là-dessus, et puis tous ceux qui l'ont fait, Mauriac et bien d'autres, etc. On prend la route nationale. Et il y a des... Donc, l'État est neutre et autorise ce pèlerinage de dans l'espace public. D'accord. Pas et plus, pas moins.
Dans la rue tous les jours, là. Donc les religieux peuvent s'exprimer.
Ils peuvent s'exprimer dans les conditions prévues par la loi.
Ah, voilà.
Il n'est pas... apparemment... Je crois qu'il ne faut quand même pas caricaturer. D'abord, je n'ai jamais vu de religieux s'exprimer comme ça dans la rue.
Ne serait-ce que par leurs habits, ils s'expriment.
Oui, mais ça, c'est tout. Oui, alors maintenant, c'est neutralisé, hein. Ils sont en général en costume civil, comme vous et moi, à part qu'ils ont un col. Il y a quelques religieux, enfin...
Vous parlez des catholiques.
Oui, je parle des catholiques. Mais les protestants, ils n'ont pas de signe particulier.
Les nouvelles religions.
Oui, oui, mais ça ne choque absolument pas. Ça ne choque absolument pas. C'est l'espace public. Dans la mesure où ce n'est pas une manière de prosélytisme, l'espace public est ouvert à tous les gens, à égalité. Ça serait autre chose si on interdisait au desservant d'une religion, parce qu'il est en costume de sa religion, de sa confession, d'être dans l'espace public, alors qu'on autoriserait les autres. En d'autres termes, ce qui serait scandaleux, ça serait d'interdire aux imams de se promener dans l'espace public, alors qu'on autoriserait un prêtre en soutane ou une religieuse en cordette de s'y promener.
Oui, et une femme en burqa, donc elle peut se promener dans l'espace public.
Une femme en burqa, la burqa n'est pas, à ma connaissance, une tenue religieuse. C'est une tenue rituelle.
Oui. Avec les lois de 1905, l'expression de mouvements sociaux bénéficiant de la franchise dans une église. L'église Saint-Paul, le conflit des 82, accueillit et les forces de police n'intervenant pas à l'intérieur. C'est un phénomène.
Absolument. Cela dit, il y a eu le même phénomène, mais contradictoire avec ce que vient de dire Alain Clary. C'est l'église Saint-Bernard, voilà, l'église Saint-Bernard qui a été enfoncée à coups de hache par les policiers du ministre de l'Intérieur pour lui faire des sans-papiers. Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, vous avez déjà posé. Vous y reviendrez après, on va laisser passer.
Je vous en prie. Je voulais dire que le partage entre le public et l'espace public et l'espace privé, il peut se régler effectivement grâce à certains aménagements de circulation quand on parle de Lourdes, du pèlerinage à Chartres. Par contre, on est là où ça commence à être très très difficile à gérer, c'est quand pour l'individu qui est croyant, ses convictions religieuses rentrent en opposition avec ce qu'on lui réclame dans l'espace public. Par exemple, le médecin qui, à la suite, effectivement, des lois sur l'avortement, il y a eu quantité de médecins qui étaient très croyants catholiques et qui ont refusé d'effectuer ces actes médicaux qu'ils étaient censés faire. Ils n'ont pas dit non, ils ont laissé traîner les choses en longueur. Enfin, ils sont fait en sorte, parce qu'ils étaient profondément opposés à ce qui était tout à fait contraire à leur conviction religieuse. Et on peut, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples, et en particulier, dès que les gens sont avec des convictions religieuses ou culturelles très très vives, l'espace public rentre en opposition avec les exigences de l'espace public de la société.
Je pense qu'il faut revenir peut-être un peu sur cette question, peut-être nuancer un peu ce que vous dites. D'abord, la loi sur l'avortement, ce n'est pas l'espace public, c'est la loi. Elle s'impose à tout le monde, indépendamment de la... en tant que membre de la communauté politique française, vous, moi, que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas, il y a une loi, elle s'applique. Si vous désobéissez à la loi, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues. Bien, cela étant dit, et c'est ce qui, à mon avis, la forme intéressante de la loi Veil, de la loi de 1975, c'est qu'il y a la possibilité, et c'est bien, parce que ça s'appelle la liberté des consciences, de l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est le médecin. D'abord, la décision, je l'ai dit tout à l'heure, la décision finale de l'avortement est prise par l'intéressé, c'est-à-dire par la femme. Bon, avec son mari ou avec son compagnon, etc. Ça, c'est une chose. Le médecin peut dire « oui, je le pratique, je suis d'accord, non, je ne le pratique pas parce que mes convictions et je, etc. » Il ne désobéit pas, rien n'interdit après d'aller voir un autre médecin qui le fera pratiquer. Ce qui est grave, par contre, ce sont les attaques qui sont portées par un certain nombre d'intégristes, et là sans guillemets, contre les cliniques qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse, ou les positions qui ont été développées à un moment donné par le professeur Lejeune, qui a été honoré, vous le savez, par la visite du pape Jean-Paul II en France il y a quelques années. Bon, ça. Mais je crois que la question est très simple. Il y a une loi, elle s'applique partout et à tous. Après, il y a effectivement la liberté de conscience dans un acte précis. C'est d'ailleurs l'objection de conscience qui est possible. Voilà. Moi, je crois que c'est ça le mérite de la loi. C'est de ne violer. Je l'ai dit la dernière fois, et je le redis, la loi de Jaurès, de Briand et de Jaurès, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui ne tendait pas, je crois, l'expression qui a été employée par Briand, il ne s'agit pas de braquer un revolver sur les gens qui croient. C'est-à-dire leur permettre de croire, mais ceux qui ne croient pas, ou qui croient différemment, de la même manière. Et donc, il y a une neutralité de l'État. Je vous en prie.
La présence du religieux dans des institutions dans la République existe. Je crois que j'ai une petite anecdote. Il y a deux ans, j'avais mon fils qui était en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Et dans ce lycée militaire, il y avait une structure militaire qui commandait l'organisation, la gestion de l'établissement. Il y avait une structure pédagogique, c'était les profs de l'éducation nationale qui étaient en présence, qui étaient là, avec le programme d'éducation nationale, mais aussi il y avait un prêtre qui vivait dedans. Moi je lui ai posé la question, et pourquoi on n'a pas un rabbin ou on n'a pas un imam? Pas de réponse. Mais il y avait un prêtre qui vit dans l'établissement.
Oui, parce que la loi de 1905 prévoit le système des aumôneries militaires. Et oui, mais c'est les accommodements de la loi de 1905.
Et je voudrais vous demander, il y a une question que je vous pose, je suis très
content. Oui.
Je ne sais pas bien répondu, ou peut-être je n'ai pas bien compris, c'est que moi qui suis athée, je me demande pourquoi l'homme s'est intéressé depuis toujours à une religion.
Non pas que j'ai pas envie de vous répondre, mais je pense que là ça déborde un peu la compétence de. Ça déborde un peu ma compétence. Il y a beaucoup d'explications possibles. je crois que ça réside quand même dans... On peut le relier à ce que je disais tout à l'heure à propos du sens. Qu'est-ce que ça veut dire et où ça va? Voilà. Je crois que les hommes se sont toujours posé la question, qu'est-ce que ça veut dire et où ça va? Okay. Parce que c'est l'espèce humaine qui se pose cette question-là. Ce sont des questions qui, en matière philosophique, s'appellent les questions métaphysiques. Il y a quelqu'un qui l'a dit, d'ailleurs c'était un instituteur laïque remarquable, qui était un grand écrivain, à mon avis, qui s'appelle Marcel Pagnol, qui toujours dans ses souvenirs d'enfance, vous savez, je l'ai cité souvent. Il y a le jeune Marcel qui rencontre un vieux paysan, enfin un paysan un peu bizarre, qui s'appelle Monde des Parpaillons, il y a le Monde des Papillons. Et alors, Monde des Parpaillons dit au petit Marcel, alors qu'est-ce que tu fais là, etc. Ben, je veux savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est le malheur, il dit, Monde des Parpaillons. Ça a toujours été le malheur des hommes. Ils veulent toujours savoir ce qu'il y a derrière. Ben oui. C'est probablement une des origines, à mon avis, de la religion aussi. C'est, on veut savoir où ça va, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Et quand on ne trouve pas la réponse, eh bien on en invente des réponses. Depuis que, on en invente des réponses. Depuis que le monde est monde, sans doute, depuis que les hommes sont des hommes, ils ont inventé ou cherché un certain nombre de réponses. Voilà, monsieur, vous aviez... je n'ai jamais laissé parler, j'ai sorti quand.
Vous voulez montrer la différence entre ce qui est culturellement admis, par exemple l'expression de l'Église sur l'espace public par les cloches qui sonnent pour les fêtes, et actuellement qui va poser problème, c'est le muezzin, pourquoi pas, hein. Comment on va réagir Est-ce que c'est aussi bruyant et impressionnant quand on va dans le pays?
Alors, vous savez que la question des cloches, c'est une question qui, au terme de la loi de 1905, doit se régler par une entente entre le maire de la commune et les prêtres concernés. Puisque, au terme de la loi de 1905, il y a des clés qui sont... Enfin, les clochers sont accessibles. Par exemple, on doit pouvoir faire sonner le tocsin, et ça c'est le pouvoir civil qui le décide, lorsqu'il y a un incendie ou je ne sais quoi, un phénomène particulier. Par ailleurs, je l'ai cité, je crois, pas dans le cours précédent, mais dans le cours d'avant, c'est le problème de la querelle des cloches, la querelle des clochers, qui était une querelle symbolique d'ailleurs aussi, parce que le clocher, c'est quand même un emblème, c'est effectivement sonner. Est-ce qu'on sonne les cloches le 14 juillet? Non, on ne le fait pas. En général, ça peut arriver dans un certain nombre de villages. Mais à ce moment-là, il y a une entente entre le curé et le maire. Parce qu'en général, ce n'est pas avec les pasteurs que se posent ces problèmes. On peut aussi connaître. Voilà. Alors, à propos du muezzin et de l'islam, oui, ça pose un autre type de problème. Mais ça pose le problème de la construction, effectivement, de mosquées dans l'espace public, de la même manière que les temples et que les églises. Vous savez que c'est après la guerre de 14 que la grande mosquée de Paris a été construite sur un terrain dont le loyer, le bail amphithéotique a été donné pour un franc symbolique par le président du conseil de l'époque qui était un anticlérical fieffé réputé qui s'appelait Édouard Herriot. Mais en signe de reconnaissance pour le sacrifice, et on peut le dire d'ailleurs, quel sacrifice, peuples coloniaux ou des peuples colonisés dans la boucherie de 1914-1918. Mais ça c'est pour la guerre d'après, voir le film Indigène, non, je crois, qui traite la même question, mais pour la guerre d'après. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça pose, de toute façon, ça pose des problèmes dans l'espace public, mais je crois que la question... c'est de bien se dire que être dans la sphère du privé ne signifie pas qu'on ne s'exprime pas collectivement. Et lorsqu'on s'exprime collectivement, on tombe sous le coup de la loi. Il y a un certain nombre de règles. Vous ne pouvez pas vous exprimer collectivement d'une certaine manière quand il y a un certain nombre de lois. Par exemple, je vais prendre quelque chose de banal, on ne peut plus laïque, il y a des maires qui interdisent, y compris dans les villes balnéaires, de se promener en maillot de bain. demande que vous ayez un short ou un t-shirt. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça l'espace public, il n'y a pas n'importe quoi dedans. Donc l'espace public, l'expression des religions dans l'espace public est réglementée. Il est réglementé pour les pèlerinages, il est réglementé. Avant, ça s'est beaucoup posé au temps où il y avait les processions. Bon, il y a beaucoup moins de processions maintenant. Mais par exemple, il y en a autour de Montmartre, du Sacré-Cœur. Hein, on le voit en règle générale, au moment de le Vendredi Saint, si je ne m'abuse. Hein, il y a la montée de la croix. Bon, il y en a. Alors, je ne parle pas de l'Italie, mais le pèlerinage du pape au Colisée à Rome, c'est assez spectaculaire aussi. L'Italie étant quand même, depuis les accords du Latran, depuis 1929, c'est de Mussolini, un régime laïque, quand même, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Hein. Et puisque, alors, eux, ils étaient particulièrement concernés, parce qu'ils sont au cœur du problème, si l'on peut dire. Alors, c'est un peu différent de la plus achevée, c'est quand même la séparation française, mais là aussi, on y reviendra éventuellement. On continue, si vous voulez, je vous en prie.
Pour les sectes, là, vous avez eu quelques difficultés à répondre.
Oui.
Mais l'État a trouvé une réponse pour l'Alsace et la Moselle, les réunions aux certains religieux.
Oui.
Donc, ils ont fait un choix.
Non, attendez, alors il y a deux choses. Pour les sectes, on y reviendra. Pour l'Alsace-Moselle, c'est le régime concordataire. C'est le régime concordataire qui a été prorogé, tout simplement.
Ils ont reconnu
certaines
religions.
Alors, mais attendez, parce qu'ils en reconnaissent un peu plus maintenant.
Ah, voilà.
Ben oui, ils reconnaissent les musulmans. Bien entendu, oui. Ben, c'est un régime. Le régime concordataire, il ne pouvait reconnaître, le régime 1801, le général Bonaparte ne pouvait reconnaître que les cultes qu'il y avait en France à l'époque. Il y avait quoi? Il y avait les catholiques, il y avait les juifs, et il y avait les protestants. Les protestants, ils étaient déjà divisés en deux. Bon, il y avait les luthériens en Alsace. En particulier, pas que l'Alsace d'ailleurs, mais bon, et les calvinistes qui étaient la grande majorité. Donc, il y avait les quatre cultes reconnus. De 1801 à 1905, il y a eu ça, c'est-à-dire le régime des cultes reconnus. À partir du moment où il y a séparation de l'Église et de l'État, il n'y a plus de cultes reconnus, sauf dans le cas particulier de l'Alsace-Moselle. Et à partir du moment où se pose la question des nouveaux cultes, c'est-à-dire celui, le culte islamique notamment, eh bien, effectivement, il fait partie des cultes reconnus en Alsace-Moselle. De la même manière que les quatre cultes.
Mais sur quels critères il est reconnu? Pourquoi pas notre secte comme vous avez cité?
Parce qu'il y a des. C'est pas une secte, c'est une religion reconnue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Une secte qui a réussi.
Et non, mais là, je n'aurais pas dû vous dire ça parce que là, j'ai dit une bêtise, mais encore que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Delumeau. C'est l'historien Jean Delumeau, donc je m'abrite derrière l'autorité universitaire. Non, c'est pas la même chose. L'islam, c'est pas une secte.
Oui.
L'islam, c'est pas une secte, c'est une religion, c'est même une des plus grandes religions du monde. C'est évident, c'est une religion à la fois d'ailleurs, c'est une religion culturelle avec un patrimoine culturel énorme et en même temps un patrimoine de conquête, une religion de violence et de conquête qui est considérable aussi, comme d'ailleurs le christianisme.
Et aujourd'hui, on voit comme ça. Le bouddhisme.
Oui. Alors, lorsqu'il y a, je suppose, alors là, je ne sais pas, je n'ai pas le détail, je ne m'y suis pas particulièrement intéressé, mais je peux essayer de trouver un certain nombre de renseignements. S'il y a d'autres religions qui sont acceptées par le régime concordataire en Alsace-Moselle, s'il y a par exemple une demande suffisante, je suppose, de bouddhistes ou de courants de ce genre, ça. Je pense qu'il doit y avoir le même système. De toute façon, le système concordataire, c'est un système de principes. C'est un système de principes qui fonctionne en fonction des religions telles que, ou des confessions telles qu'elles se manifestent dans la région déterminée. Par exemple, à Mayotte, c'est un régime qui n'est pas concordataire parce qu'il y a 85, on vient d'en parler d'ailleurs, puisque ça va se transformer éventuellement en département. Il va y avoir 90% de musulmans. Donc il y a un régime, le régime du cadi, etc. Donc un régime juridique et religieux qui est le régime juridique et religieux islamique. C'est une particularité. Ce sont des particularités, mais à mon avis, quand même, ce qui est le plus important, c'est moi, c'est pas les spécificités, c'est la généralité. La généralité, c'est la loi de 1901. Et quand je dis ce qui est important, c'est la généralité de la loi de 1905, parce que et on le verra dans la quatrième partie, c'est quand même toujours un objet chaud. C'est toujours un objet chaud. Il y en a un certain nombre qui aurait envie, alors sans le dire tout en ne le disant pas, ou en contournant, de lui tordre le cou à cette loi. Parce que c'est une loi tellement générale qu'effectivement, on dit, on va la modifier, etc. On a bien su modifier les choses. Je prends cet exemple sur la loi de 1905. C'est on ne reconnaît ni salarié ni ne subventionne aucun culte. Ben évidemment, on ne construit pas, l'État ne donne pas d'argent pour construire des édifices religieux. Sauf qu'on peut tourner la difficulté. L'église d'Évry, dans l'Essonne, a été subventionnée par l'État parce qu'il y a un centre muséographique religieux qui lui est joint. Et c'était sous un gouvernement socialiste. Avec des ministres communistes, d'ailleurs. Donc ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne après la guerre de 14 que Herriot donne pour un franc symbolique le terrain pour construire la grande mosquée de Paris. Qui est, en plus, qui est une très belle construction architecturale et artistique. Il y a de très belles choses dedans. Bon. Donc, il y a effectivement... Et lorsqu'on construit, lorsqu'on a construit dans l'espace Nîmois, il y a eu des beaux amphithéotiques qui ont été consentis par la puissance publique. Il y a des beaux... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne participe pas directement... On n'a pas besoin de modifier la loi de 1905 pour ça. C'était la pensée de Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il disait, c'est plus adapté. Parce que moi, je suis contre l'islam des caves. Qui n'est pas contre l'islam des caves? On est effectivement pour la visibilité dans l'espace public. Une mosquée comme une église, comme un temple, comme une synagogue. Il n'y a pas de raison. Hein. Bon, ou comme un temple bouddhiste, le Dalai Lama, il est venu à... Je ne sais pas où, dans l'Hérault, là, il y a un temple bouddhiste. Hein, c'est ça. Bon. On est pour ça. Mais on n'a pas besoin de modifier la loi de 1905. La puissance publique peut, par l'intermédiaire du système des beaux amphithéotiques, avec, donc ça dure 99 ans, permettre la construction d'eux. Après, ce sont les fonds des fidèles qui aident à la construction des bâtiments. Mais donc la puissance publique aide indirectement. Alors que si l'on lisait la loi de 1905, l'article 2, de manière très stricte, ne reconnaît, ne subventionne ni le salarié, ne subventionne aucun culte. Donc on peut tourner, on n'a pas besoin de modifier la loi de 1905. En fait, d'ailleurs, ce n'est pas là-dessus. On le verra la prochaine fois que le débat porte. C'est sur les deux premiers articles de la loi de 1905. C'est la liberté de conscience et la liberté religieuse, et ne reconnaît le salarié ni le subventionne aucun culte. C'est les deux trucs de principe. C'est-à-dire. C'est moins d'ailleurs ce que disent ces deux articles que le principe qu'il établit, c'est-à-dire la neutralité du politique par rapport aux confessions. C'est ça qui est important. L'État ne favorise aucune confession en particulier, même si le président de la République est catholique, et s'il n'hésite pas à le dire.
Quand les gens sont plus, qu'est-ce qui se passe là ?
Bon, après, il y a le goût de reconduction.
Je n'ai pas très bien compris en quoi consistaient les inventaires dont vous parliez la dernière
fois. Oh, c'est très simple. La loi de 1905, dans son article 4, dispose que, à partir de la présente loi, les bâtiments et tous les biens du culte seront restitués à l'État qui en est propriétaire. À l'État, à la commune ou au département qui en est le propriétaire. Article 12. Pour être, article 13, immédiatement rétrocédé aux communautés religieuses qui vont s'en servir pour leur culte. Seulement, il y a un principe juridique partout, et en toute circonstance qui prévaut dans le droit français, c'est que lorsque vous donnez quelque chose, il faut qu'on puisse en faire l'inventaire. Il y a même un service qui s'appelle, une direction qui s'appelle les domaines. Alors, l'État, ayant récupéré toutes les églises et voulant les redonner aux catholiques, vont faire l'inventaire de ce qu'il y a dans ces églises.
L'intérieur aussi, par exemple.
Bien sûr, et bien sûr, et ben oui, et bien sûr. Bien, meubles et immeubles. Les meubles meublants, c'est-à-dire les chaises, ou les prie-dieu, si vous voulez, jusqu'à l'hôtel et compagnie. Il se trouve que dans la rédaction d'une circulaire un peu imbécile, parce qu'il y a la bureaucratie depuis Colbert en France, on sait que ça existe aussi, de manière un peu stupide, on a dit jusqu'à l'ouverture du tabernacle. Le tabernacle, c'est quand même quelque chose d'intime et de sacré dans une religion. Il n'y a pas de trésor dans les tabernacles. Alors évidemment, déjà l'Église catholique était hostile par définition à la création des associations cultuelles. Je le relis à ce que je disais tout à l'heure. On passe de l'institution à l'association. Si on passe de l'institution à l'association, on n'a plus une association, loi de 1901 ou loi de 1905, comme vous voulez. Elle a un président, elle a un conseil d'administration, elle a un bureau, elle a un trésorier, un secrétaire, il en faut trois. Un président, un trésorier, un secrétaire, comme dans la loi de 1901. À l'Église catholique, il n'y a pas un président, un trésorier, un secrétaire. Il y a le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, etc. Et ça descend jusqu'au curé, au plus humble curé de campagne. À partir du moment où vous imposez par la loi la création d'associations cultuelles se substituant à la hiérarchie catholique, les catholiques disent, mais alors des laïcs vont pouvoir prendre la place des évêques dans la direction des associations cultuelles. Ça n'est pas particulièrement choquant pour les autres, pour les protestants. Il y a des laïcs qui sont protestants des associations cultuelles. Ils ne sont pas forcément des pasteurs. En plus, chez les protestants, il y a la règle du sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout le monde peut prêcher, etc. Bon. Donc c'est un peu particulier chez les juifs, c'est un peu, encore un peu différent. Dans la religion israélite, c'est un peu différent. Donc la question qui était posée chez les catholiques, c'était le refus de ces associations. Puis il y a eu le refus des inventaires. Alors, le refus des inventaires, c'est que l'État a dit, ben, je vous donne, il dit au curé de Chartres, de Notre-Dame de Chartres, je vous rétrocède, en vertu de la loi de 1905, article 13, le bien que je vous ai confisqué par l'article 12. C'est comme ça. Seulement, avant de vous le donner par un acte de nue propriété, vous en serez propriétaire. Il faut bien que j'établisse ce qu'il y a. Qu'il y a tant de hauteur, tant de surface, etc. Et puis dedans, ce qu'il y a. Jusque, y compris les statuts et compagnie. Et ça a choqué profondément, effectivement, le clergé catholique, qui a excité le peuple catholique qui n'était pas très, très... Alors, il y en avait qui étaient beaucoup plus ouverts. Mais dans les villages en particulier, j'ai cité la semaine dernière l'affaire de Sumène, où effectivement, il y a eu donc le receveur de l'enregistrement. Vous voyez cette scène, hein, devant l'église de Sumène, se pointe, il y a 200 ou 300 personnes qui sont là, furieuses, et qui crient, qui hurlent, qui lancent des nazis sur le receveur de l'enregistrement, le maire avec son écharpe tricolore, un officier de l'armée, et puis un certain nombre de pompiers ou d'hommes de peine avec des haches à la main. Et qui vont à coups de hache, comme ça s'est fait, mais alors dans d'autres circonstances, pour l'église Saint-Bernard, les sans-papiers, qui vont enfoncer la porte de l'église de Sumène pour pouvoir y pénétrer, puisqu'elles sont fermées de l'intérieur, faire sortir le curé, donc éviter qu'il y ait des incidents, mais qu'il y ait des blessures, etc., et procéder à un inventaire, comme on le fait au moment d'un héritage, c'est-à-dire, bon, 10 assiettes, machin, 15 petites cuillères, 2 tabernacles, 40 hosties, etc., etc. Bon, c'est stupide, mais c'est la loi. Le malheur, c'est que ça a été mal fait. Vous savez ce qu'avait dit Clémenceau quand il est arrivé au gouvernement? Il a dit « La vie d'un homme, un ciboire ne vaut pas la vie d'un homme », quoi. Ou l'inverse, peu importe. En tout cas, qu'on ne mettait pas en balance la vie d'un homme et un ciboire. S'il ne voulait pas, ben, il ne voulait pas qu'on ouvre les tabernacles, on n'ouvrait pas le tabernacle. On n'y cachait pas des gens. D'autant que tout allait être rétrocédé. Mais il y avait ce côté encore un peu anticlérical. Ça a été quand même un demi-siècle de bataille. Il faut aussi comprendre, de la part de l'État, alors qu'il y ait eu des courants laïcs étroits, et qu'il y en a encore aujourd'hui, personnellement, je ne les approuve pas, mais c'est comme ça. Mais historiquement, ne commettons pas le péché d'anachronisme. Il faut voir que ça a été une bagarre épouvantable entre cléricaux et anticléricaux, avec des arguments qui n'étaient pas toujours du plus haut niveau intellectuel. Alors, les inventaires, c'est une chose légalement nécessaire qui s'est plus ou moins bien faite. Alors, en particulier dans l'Ouest, ça a été terrible. ça a été terrible en Bretagne, etc. Dans le Gard, Raymond Huard, l'historien Raymond Huard dit en gros que 50% se sont passés sans problème, et puis d'autres, alors après, il y a des épisodes. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Quand la foule, en Vendée, par exemple, quand la foule était surexcitée, les militaires sont partis. Hein. Les militaires sont partis. Mais il y avait eu déjà des problèmes, c'était pas la première fois. Les inventaires, c'est que, disons, l'ultime manifestation, il y a eu d'abord l'expulsion des congrégations autour de 1900. Par exemple, quand on a expulsé les Chartreux, la Grande Chartreuse, en Savoie, il y a un roman d'Henri Bordeaux là-dessus, c'est beaucoup de violents, tout le monde pleure, etc. Mais quand vous voyez les militaires encadrant, militaires en noir, encadrant sur un décor neigeux les pauvres, les pères blancs, qui sortent un à un de la Grande Chartreuse, hein. C'est effectivement un truc spectaculaire. Ce sont des photos qui restent dans l'imaginaire. Et les inventaires, c'est pareil en Bretagne. Et donc, la chanson dont on parle ce matin, un de nos amis ou un des auditeurs la dernière fois disait qu'il se demandait encore, il est de Sumène, ou sa femme est de Sumène, il se demandait encore s'il n'y avait pas encore des traces des coups de hache des militaires sur la porte de l'église de Sumène. Ça ne serait pas impossible d'ailleurs, hein, parce que c'est un caractère. Ça y est toujours. Ah ben voyez. Il y a encore les traces, parce qu'ils l'ont pris à coups de hache sur la porte d'une église. Voilà. Cela étant dit, comme le disait Alain Clary tout à l'heure, à propos des éboueurs dans les années 80, quand ils s'étaient réfugiés dans l'église Saint-Paul, la police ne les avait pas poursuivis. Il y avait cette vieille légende du droit d'asile du Moyen-Âge, dont parle Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, si je ne m'abuse. Esmeralda se réfugie, si je ne me trompe, avec Quasimodo au sommet des tours de Notre-Dame. Et asile. Mais enfin, bon, ça, c'est des... En fait, on pénètre aujourd'hui dans les églises, si on veut, il n'y a pas de... C'est plus difficile psychologiquement de faire intervenir la police ou de faire intervenir l'armée à l'intérieur d'une église ou d'un temple que de faire intervenir dans un hôpital ou dans une école. Encore plus. Oui. Mais oui, je vous en prie, excusez-moi. Je suis bavard. Je vous écoute.
Vous avez cité Bobéro en disant qu'il avait parlé que l'institution était devenue des associations, il y avait une sécularisation de la société, une individualisation de la société. Et moi, je voulais poser à tout le monde la question, est-ce qu'il n'y a pas de danger, et je rejoins ce qu'a dit la dame pour le médecin, que chaque individu se sente entièrement et que religieux, et que l'on perde chacun, puisqu'on s'individualise, que l'on perde effectivement le sens du citoyen collectif. Et on rejoint le médecin qui, lui, par sa conscience personnelle, ne va pas effectivement obéir à une loi qui sert les autres. Et dans notre société, on peut voir effectivement peut-être que beaucoup de gens deviennent religieux et uniquement religieux, et que l'on perd dans cette individualisation, on perd le sens du collectif et de la citoyenneté, de la nation, beaucoup de mots, beaucoup de termes que l'on peut effectivement reprendre ensemble. J'aimerais que vous ayez un bon réponse.
Vous êtes interpellé. Allez-y.
Et vous avez parlé, excusez-moi, vous avez aussi parlé des trois courants républicains laïcistes que le privé... avec le discours du Premier ministre, tout ça, et puis le multiculturalisme de Régis Debray, mais vous n'avez pas parlé des pouvoirs des religieux, des lobbies religieux, etc., etc., qui existent, et j'aurais bien voulu savoir quelles étaient leur importance, quand même. Justement parce que c'est des contre-pouvoirs, et on est toujours en train de naviguer entre ces deux choses, elles sont importantes.
Qu'est-ce que vous entendez par lobby religieux? L'Opus Dei?
Ils existent.
L'Opus Dei?
Non, pas que.
Vous avez évoqué tout à l'heure les faits. Il y a le fait politique.
Oui.
Il y a le fait historique.
Oui.
Il y a le fait social.
Oui.
Il y a le fait mythologique.
Oui.
Mais il n'y a que deux qui utilisent le terme de pouvoir. C'est le pouvoir politique.
Oui.
Ou le pouvoir religieux.
Oui.
Or, ils entrent parfois en concomitance, parfois en complicité. Souvenez-vous, sur le traité constitutionnel européen, lorsque nous avions été appelés sur le référendum, il me semblait avoir lu quelque part que certains lobbies étaient intervenus pour que les religions soient inscrites.
Oui, je l'aborderai la semaine prochaine d'ailleurs. Mais vous faites bien de le poser, effectivement. Non, je pense qu'effectivement, bon, les lobbies, ce sont simplement les églises. Hein. Ce sont simplement les églises. C'est le Vatican ou c'est la conférence des évêques en France, etc. Bon, après, il peut y avoir des formes associatives comme l'Opus Dei, par exemple, qui ont une influence particulière. Oui. Non, mais là, je pense effectivement. Je ne sais pas si. La question que je me pose, c'est si on peut aujourd'hui parler, un siècle après 1905, de pouvoir religieux. Je pense qu'il y a un pouvoir politique, ça c'est évident, hein. Il y a toujours eu un pouvoir politique. Je pense qu'il y a une influence religieuse, mais un pouvoir religieux, je n'en suis pas persuadé, en France notamment. Qu'il y ait un pouvoir religieux en Pologne, oui. Qu'il y ait une influence religieuse en Europe, avec la volonté de faire inscrire les héritages, etc., dans la Constitution européenne, on a vu que cette influence-là, elle n'était pas quand même sans mélange. Puisque on a remplacé les héritages religieux par les héritages spirituels, si je ne m'abuse, et humanistes. À la demande conjointe du président de la République de l'époque, qui était Chirac, et du Premier ministre, qui était Jospin. Malgré les demandes réitérées et les oppositions réitérées, non seulement des catholiques, mais des protestants également. La Fédération protestante de France avait souhaité qu'on parle de l'héritage religieux. Je ne parle pas d'autres lobbies, alors là, pour groupes de pression, qui avaient demandé qu'on inscrive Dieu, même le nom de Dieu, dans la Constitution. Alors, je crois qu'effectivement, il y a une influence, mais je ne pense pas que ça se pose personnellement. Hein. On peut avoir une opinion différente, bien entendu. Je ne pense pas que ça se pose en termes de pouvoir. Ce n'est pas aussi simple que ça, quand même, en termes de pouvoir. Regardez, dans l'ensemble des pays d'Europe, il y a quand même des évolutions vers une laïcisation, et sinon une laïcisation, du moins une sécularisation. Y compris, d'ailleurs, en Espagne. Avec tout l'héritage que l'on sait. La Pologne étant effectivement encore un cas particulier, mais je crois qu'il faut nuancer dans une certaine mesure.
Et dans notre société française, dans chaque individu,
je pense qu'il y a une... Alors la société française, c'est un problème qui est peut-être beaucoup plus complexe. Je crois que c'est une société qui est profondément sécularisée. C'est-à-dire que effectivement, l'Église, enfin les confessions comme institution, ça ne marche plus. Les préfets, il faut voir l'Église, les églises, elles sont vides quand même. Et les vocations, elles se perdent, etc. Cela dit, sur le plan des idées, de l'influence, je crois qu'il y a une certaine influence des confessions sur la société. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que cette influence-là soit forcément dans un sens, si j'entends bien le point de vue de vous parler, un sens négatif. Je pense par exemple que la réaction des catholiques de France aux prises de position de Benoît XVI sur le préservatif sont quand même, me semble-t-il, assez positives. Assez positives. Même si la hiérarchie est d'une prudence... vraiment de Lyon, non, on dit, c'est une prudence de serpent, mais peu importe. Bon, je crois qu'il y a quand même des évolutions considérables qui se sont produites dans l'Église de France, chez les catholiques notamment. Je ne parle pas des protestants et je ne parle pas non plus de la religion juive, parce que la religion juive, l'affaire, à mon avis, est compliquée par l'affrontement israélo-palestinien. À l'évidence, c'est par les résurgences d'antisémitisme, etc. Bon, donc là, il y a un problème qui est très particulier. Et quant à la Fédération protestante de France, à ma connaissance, c'est la seule qui ait demandé la révision de la loi de 1905 parce qu'elle souffre de dispositions un peu imbéciles du ministère des Finances sur les associations dites cultuelles. Il y a des dispositions, c'est extrêmement compliqué, ils demandent des modifications qui pourraient être faites d'ailleurs, à mon avis, par un décret ou par des dispositions avec le ministère des Finances, tout simplement. Mais bon, personnellement, le fait que, je reviens à ce que vous disiez au départ, on soit passé de l'institutionnel à l'associatif, et qu'il y ait une individualisation de la religion ne m'apparaît pas forcément un phénomène négatif. Je pense que le phénomène associatif est quand même un phénomène plus démocratique que le phénomène institutionnel. Et quant à l'individualisation, après tout, c'est un peu la religion à la carte. Et c'est quand même le trait aujourd'hui de la plupart des gens qui embrassent une religion. Certes, ils acceptent bien, généralement, bon, il y a le pape, très bien, il a dit un certain nombre de choses. Mais enfin, prenons l'exemple, si l'enseignement du Vatican était appliqué par les catholiques français en ce qui concerne le contrôle des naissances, l'avortement ou le préservatif, ça se saurait. Et depuis longtemps. Il y a belle lurette que, même d'ailleurs, moi je participe pour d'autres raisons à des groupes de dialogue avec des croyants, des catholiques et des protestants, en particulier chez les catholiques, j'ai jamais ces problèmes-là. Bon, ils en discutent, mais bon, ça n'a pas une grande influence, à mon avis, sur eux. Peut-être en Italie, peut-être, et j'en suis même pas sûr. Mais quant à ce que vous disiez tout à l'heure, institution, association, individualisation, je ne pense pas que cette démarche-là soit forcément une démarche négative.
On peut quand même imaginer que l'individualisation amène des choses après négatives, même si jusqu'à présent ça a pu être positif.
Oui, ah, mais c'est un risque, effectivement. C'est un risque, mais c'est la confiance aussi. C'est la confiance. Enfin, c'est même le message, je crois qu'il y a une question après derrière, puis je crois qu'on va être obligé de finir, mais ça me renvoie quand même à une référence à la Renaissance et à l'humanisme de la Renaissance. Le sociologue Zvetan Todorov, il dit l'humanisme, c'est l'autonomie du je, J-E, la finalité du tu, toi, et l'universalité des il, ILS. C'est-à-dire, effectivement, je suis libre, tu es mon prochain, ensemble, nous formons la communauté. C'est-à-dire que l'individualisation, à mon avis, ne s'oppose pas au collectif. On peut vivre, à mon sens, pour fréquenter souvent des catholiques en particulier, je crois qu'il y a des catholiques qui vivent individuellement leur foi à l'intérieur de l'Église, en étant indépendant vis-à-vis d'un certain nombre de messages de l'Église. Quant aux protestants, je n'en parle pas, parce que je crois que c'est consubstantiel au protestantisme. C'est la délibération du croyant avec Dieu, sans autre intérêt. C'est une question de conscience. Donc je ne pense pas que ce soit forcément négatif. Cela dit, avec les nouveaux cultes, d'autres questions peuvent se poser aussi. Je ne contredis pas ce que vous dites, je vous dis ce que ça me suggère. Je crois qu'il y a une question au fond et puis une dernière.
Oui, ça veut simplement dire que exprimer des opinions et des idées, ça ne veut pas forcément dire avoir le pouvoir. Quand on parlait tout à l'heure du pouvoir, ça me paraît légitime qu'on puisse donner un point de vue, l'exprimer sur la place publique, c'est pas pour autant que c'est un pouvoir constitué.
Je crois que cette question-là, c'est vrai en un sens, et puis ça peut être corrigé ou nuancé dans un autre. Je crois que ça ne signifie pas avoir le pouvoir d'exprimer des opinions, effectivement, dans l'espace public, des opinions religieuses dans l'espace public. Mais ça peut devenir une force de frappe. En 1984, l'échec du service public laïque universel de l'éducation nationale, le projet Savary Mitterrand, il y a eu 1 million de catholiques. Alors, bon, c'est la querelle scolaire, mais il y a eu un pouvoir. Il y a eu un contre-pouvoir, en tout cas, qui s'est opposé au pouvoir politique. Par ailleurs, il y a eu un contre-pouvoir laïque qui s'est opposé à la modification de la loi Falloux, voulue par Balladur, et Bayrou, si je ne m'abuse, en 1994. Non, comme ça, il y avait 1 million de personnes qui sont descendues. Ça veut dire que les contre-pouvoirs... Mais après tout, ces contre-pouvoirs-là, ou ces pouvoirs... Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'exercice de la démocratie? Après, il y a les pouvoirs confessionnels, effectivement, aussi. Mais il y a les pouvoirs idéologiques. Je crois qu'il y avait encore une dernière question, parce qu'il ne veut rien faire. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui... Mais si, moi, je suis à votre disposition, mais je vous en prie.
Excusez-moi, je n'ai pas de problème. Je voulais simplement préciser...
Attendez, il y a une dernière question, si vous voulez bien l'écouter.
Je voulais préciser que par rapport au médecin, il y a la clause de conscience et l'obligation de donner une adresse et où se fait l'avortement pour que la femme ne perde pas de temps et rentre dans le cadre de la loi. Donc en fait, ça respecte la clause de conscience du médecin et le respect de la femme.
Très bien pour cette précision. Oui. Merci. Bien, mais je vous remercie. À la semaine prochaine pour la conclusion.